L'information de la mi-journée, c'est le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus au sommaire aujourd'hui. La démocratie américaine est abîmée, ébréchée, mais elle tient toujours. Après les émeutes menées par ses partisans hier au Capitole, Donald Trump, plus isolé que jamais, promet enfin une transition ordonnée avec Joe Biden. Il reconnaît que son mandat s'achève, mais donne rendez-vous pour la suite. Au Congrès, après les heures de chaos hier, le Congrès a repris le travail et certifié les résultats de la présidentielle.
Joseph R. Biden Jr.
Joseph Biden de l'État du Delaware a reçu 306 votes. Donald Trump de l'État de Floride a reçu 232 votes. Le porte-parole déclare cette session fermée.
Les manifestations d'hier laissent derrière elles 4 morts, une femme dans l'enceinte du Capitole. La mort des 3 autres reste à élucider. 52 arrestations et une image des États-Unis déplorable. En France, Marine Le Pen reconnaît finalement la victoire de Joe Biden. Nous reviendrons avec nos spécialistes et envoyés spéciaux sur ces heures où la démocratie a vacillé à Washington. L'ambiance ce matin, Trump qui avait harangué ses partisans juste avant les émeutes sous la menace d'une destitution. Vos questions sur la situation aux États-Unis 01 45 24 7000 et l'appli France Inter rubrique réagir sur vos téléphones. Avec nous à 13h30 l'historien Paul Shore et la journaliste américaine Lorraine Collins. À Paris, quelles nouvelles mesures contre l'épidémie de Covid? Conférence de presse de Jean Castex ce soir. Encore 25 000 cas positifs officiellement recensés hier. L'Organisation mondiale de la santé appelle l'Europe à faire plus face à une situation alarmante. Dans l'actualité encore, il y a 5 ans, l'attentat contre Charlie Hebdo, la fille du dessinateur Honoré avec Frédéric Pommier, une chanson pour garder le lien avec son père. Vers un procès Benzema dans l'affaire de la sextape, le footballeur est renvoyé au tribunal. Et pour souffler et se réjouir un peu, le magnifique tour du monde de Damien Seguin dans le groupe de tête du Vendée Globe, lui qui est le premier marin handisport dans l'histoire de la course. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
65 interminables jours après l'élection, après une journée où la démocratie américaine a tremblé, lâché par ses derniers partisans, banni des réseaux sociaux, Donald Trump se rend enfin à l'évidence. Bonjour Loïc Laurie.
Bonjour Bruno.
Envoyé spécial de France Inter aux États-Unis, Loïc, dans un tweet ce matin, le porte-parole de Donald Trump admet enfin que le mandat se termine, mais il donne déjà rendez-vous.
Oui, absolument. Le début de notre combat, dit-il, pour rendre sa grandeur à l'Amérique, dit Donald Trump, selon la formule 1000 fois consacrée. Le président, pourtant, manque de temps. Il doit quitter ses fonctions dans moins de 2 semaines. Ce communiqué, en tout cas, est assez saisissant. Vous savez, le président est presque muet après la suspension de son compte Twitter. Mais c'est Dan Scavino qui l'a publié, son porte-parole. C'est très trumpien dans le ton. Le président affirme être en désaccord complet avec le résultat de la présidentielle. Ça, on le savait déjà. L'effet, ils sont avec moi. Cela fait écho finalement à son discours hier matin à Washington avant que la foule n'envahisse le Congrès. Nous ne lâcherons rien, disait-il à ses partisans. La nouveauté, en revanche, c'est qu'il assure qu'il y aura une transition ordonnée du pouvoir, ce à quoi il ne s'était jamais engagé depuis sa défaite lors de la présidentielle du 3 novembre. Des propos presque déplacés finalement après ce qu'il s'est passé hier au Capitole. Pour une transition ordonnée, c'est un peu raté.
Alors restez avec nous Loïc. D'abord ce communiqué, ce tweet du porte-parole de la Maison Blanche Dan Scavino. Omar Waman l'a soumis à la spécialiste des États-Unis, l'universitaire Marie-Cécile Nave.
Dans ce communiqué, il parle aussi de la fin du plus grand premier mandat de l'histoire des États-Unis et il persiste dans son déni de la réalité électorale. Je me demande s'il n'y a pas chez lui quand même une certaine crainte de poursuite judiciaire. C'est une question qu'on peut se poser. Donc peut-être que c'est aussi une manière d'apaiser les choses pour ne pas donner l'impression qu'il souffle trop sur les braises. En tout cas, sur un plan judiciaire, c'est tout à fait possible. Trump avait et a toujours, je crois, l'obsession de partir de la Maison-Blanche en ne laissant pas une image de loser. Les images qui ont tourné en boucle nourrissent ce récit de la victoire volée, de l'élection truquée, de la force, de la combativité qui entretiennent la marque Trump, qui entretiennent un trumpisme d'influence qu'on va continuer de voir exister sans doute dans la sphère politique américaine, mais peut-être aussi en dehors.
Marie-Cécile Nave, directrice de recherche à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques et spécialiste des États-Unis. Loïc Laurie, on vous retrouve à Washington. Trump admet que son mandat s'achève. Il faut dire que ces dernières heures, il était plus seul que jamais.
Oui, et d'où cette question finalement, Bruno, Donald Trump peut-il, doit-il rester en poste jusqu'au 20 janvier, moins de 2 semaines d'attente après 4 ans de présidence mouvementée, finalement ce n'est pas grand-chose, sauf qu'une partie de la presse appelle à sa démission, voire à sa destitution. Trump est coupable de sédition, lit-on ainsi dans le Washington Post ce matin, et l'opinion est largement partagée. Mais il y a aussi l'option atomique évoquée par certains médias, le 25e amendement, qui sait ce dont Donald Trump est capable en 13 jours, autant l'écarter du pouvoir le plus vite possible. Cet amendement permet en effet de déclarer le président inapte à exercer, mais pour cela, eh bien, il faut que le vice-président et une majorité de membres de son cabinet se mettent d'accord. Les discussions, en tout cas, existent. C'est ce qu'affirme le site politique Axios. Des membres du département d'État poussent pour cela. Encore faut-il étudier cette option explosive, l'impact sur le parti, sur les partisans de Donald Trump, sur l'image aussi que renverra ensuite le président, héros peut-être ou martyr. Ce qui est sûr, c'est que si Donald Trump n'a pas arrêté ces 4 dernières années de franchir des lignes rouges, le coup de force d'hier a rendu furieux jusque parmi ses plus fidèles.
Loïc Loury en direct de Washington, où il est 7h06 du matin. Parmi les derniers à avoir lâché Trump, son secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin. Les violences au Capitole sont inacceptables. Le temps est venu pour notre nation de s'unir, de respecter le processus démocratique. Le successeur de Trump, Joe Biden, allocution au milieu de la nuit, il dénonçait une attaque sans précédent en pleine émeute au Congrès, et il appelait à ce moment-là Trump à s'exprimer rapidement à la télévision pour amener la fin du siège du Capitole. Pour bien comprendre ce qui s'est passé d'inédit hier et la responsabilité de Trump dans les émeutes qui ont vu des insurgés s'introduire dans le Capitole, l'un s'installer au bureau du président du Sénat, retour sur ces événements minute par minute. Le Congrès validait hier les résultats de la présidentielle, d'ailleurs c'est acté, et la séance, car la séance a repris après les émeutes, et parallèlement hier, à proximité du Congrès à Washington, Trump a harangué la foule de ses partisans en disant à ce moment-là qu'il ne reconnaîtrait jamais la défaite. Le récit, Valérie Crova.
Il est midi heure de Washington quand Donald Trump prend la parole devant des milliers de manifestants près de la Maison Blanche.
Nous allons marcher et je serai là avec vous. Nous allons descendre. Nous allons marcher où vous voulez. Mais je pense que nous allons marcher jusqu'au Capitole. Et nous allons encourager nos courageux sénateurs et membres du Congrès. Et nous n'allons probablement pas applaudir autant certains d'entre eux.
Quelques minutes plus tard, ses partisans chauffés à blanc arrivent devant les marches du Capitole. Un homme crie de pousser pour faire tomber les barrières tenues par les forces de l'ordre, dépassées par les événements. Des centaines d'émeutiers rentrent dans le bâtiment où se tient la session du Congrès destinée à certifier la victoire de Joe Biden. Pendant 3 heures, les émeutiers déambulent dans les couloirs et se prennent en photo dans les bureaux, dont celui de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants. Le président élu, Joe Biden, prend alors la parole. Il est 16h, heure locale.
J'exhorte donc instamment le président Trump de se présenter à la télévision nationale et exiger que ce siège se termine. Envahir le Capitole, ce n'est pas une protestation, c'est de l'insurrection.
Un quart d'heure plus tard, c'est au tour de Donald Trump de s'exprimer. Il demande à ses partisans de rentrer chez eux. Les Trumpistes quittent les lieux. Le Capitole est considéré comme sécurisé peu après 17h30. Les élus peuvent reprendre le processus de certification de l'élection présidentielle américaine.
Et après ces émeutes, les comptes Facebook et Twitter de Trump suspendus. C'est donc son porte-parole, on le disait avec Loïc Loury, qui a publié ce tweet il y a quelques heures, reconnaissant que le mandat de Donald Trump s'achevait. L'autre information de la matinée et de ces dernières heures, c'est le coup de marteau du vice-président Mike Pence au Congrès. Les résultats de la présidentielle sont certifiés.
Joseph R. Biden Jr.
Joseph Biden de l'État du Delaware a reçu 306 votes. Donald Trump de l'État de Floride a reçu 232 votes. L'annonce du résultat du vote par le président du Sénat sera considérée suffisante pour déclarer élu le président et la vice-présidente des États-Unis. Les mandats débuteront le 20 janvier 2021. Le porte-parole déclare cette session fermée.
Sébastien Sabiron, vous avez regardé ces dernières heures les télévisions américaines, des animateurs, des intervenants qui ont fait nuit blanche évidemment, et des élus qui racontent ces heures où ils ont dû se mettre à l'abri.
Ce matin, les télévisions américaines diffusent en boucle les images de ce que CNN qualifie de tentative de coup d'État. Les vitres brisées, la police du Capitole débordée par des dizaines de personnes, des policiers tentant désespérément de bloquer l'entrée avec des meubles, et puis les membres de la Chambre des représentants évacués. Annie Custer est l'une d'entre eux, élue démocrate du New Hampshire. Elle raconte à CNN ses instants de terreur, des sanglots dans la voix. Ils nous ont dit d'utiliser les masques à gaz placés sous nos sièges. Clairement, les forces de l'ordre n'étaient pas suffisamment nombreuses pour les retenir. Nous savions qu'ils finiraient par entrer. On essayait de se cacher accroupi derrière le parapet du balcon. J'ai eu peur qu'il y ait de nombreuses victimes, car s'ils avaient eu des armes automatiques, ils auraient pu tuer des centaines de membres du Congrès. J'avais peur pour ma vie et j'essayais de protéger mes collègues. Ce matin, de nouvelles images montrent les dégâts à l'intérieur du bâtiment. Et cette question partagée par tous les médias, how could this happen? Comment tout cela a-t-il pu se produire? Pourquoi Donald Trump a-t-il longuement rechigné hier à mobiliser la garde républicaine? Lorsque l'on se souvient, disent les journalistes, que les manifestations antiracistes du printemps dernier à Washington ont été strictement encadrées.
Comment tout cela a-t-il pu se produire? Creusons cette question avec un autre de nos envoyés spéciaux à Washington. Bonjour Sébastien Paour.
Bonjour Bruno.
D'abord Sébastien, un mot de l'ambiance ce matin dans la capitale américaine, ville placée sous l'état d'urgence pour les deux semaines à venir.
Oui, c'est toujours assez désert. Ça l'était hier soir à 18h et même au-delà. On est allé faire un tour avec Grégory Phillips pour se rendre compte de ce couvre-feu qui avait été mis en place. Il est levé depuis une heure maintenant, mais la ville reprend doucement, tout doucement. Le jour se lève et il est encore trop tôt pour vous dire à quoi ça va ressembler aujourd'hui. Mais effectivement, le couvre-feu a été très respecté cette nuit et les choses sont nettement plus calmes. Autour du Capitole, les policiers et la garde nationale sont toujours massivement présents, et alors qu'il est évidemment... Tout est très calme autour du Capitole et ici à Washington.
Sébastien, quel bilan humain peut-on dresser de la journée d'hier ?
Alors, bilan humain, une personne tuée, vous l'avez entendu, ce coup de feu dans l'enceinte du Capitole, une ancienne militaire qui a servi pendant 14 ans dans l'armée de l'air, qui s'est retrouvée une fervente Trumpiste venue de Californie pour cette journée de manifestation hier, qui s'est retrouvée à l'intérieur et qui a été touchée par une balle et est finalement morte à l'hôpital ensuite. On parle de trois autres personnes qui auraient également succombé à des blessures, mais ces informations-là, pour l'instant, ne sont pas confirmées. En tout cas, la journée a été dramatiquement marquée par ces blessures et par cette personne tuée à l'intérieur même du Capitole, ce qu'on n'imaginait évidemment pas.
Et des dizaines d'arrestations. Et ce qu'on évoquait avec Sébastien Sabiron et les télévisions américaines à l'instant, comment une telle faille de sécurité est-elle possible? Comment les émeutiers ont-ils pu entrer aussi facilement dans le Capitole?
Ça nous a marqué hier quand on était au pied des marches avec eux et qu'ils commençaient de monter vers l'intérieur du Capitole, c'est qu'ils étaient à la fois très nombreux, très remontés, galvanisés par leur patron, par Donald Trump, et en même temps que les forces de sécurité, la police du Capitole, qui est chargée de sécuriser les lieux comme son nom l'indique, était elle très peu présente. Il y avait quelques personnes en uniforme civil, mais pas équipées de casques ni de boucliers. Donc quand ils se sont retrouvés face à cette horde de supporters de Trump déchaînés et qui voulaient absolument entrer à l'intérieur, ils n'ont absolument pas fait le poids. La garde nationale avait été mobilisée, mais elle n'était pas déployée autour du bâtiment. Et lorsqu'elle est intervenue, il était nettement trop tard. Il était 17h30, quasi 18h. Le couvre-feu entrait en vigueur. Le jeu, la balance n'était pas du tout équilibrée entre les supporters de Trump et les sécurités autour du Capitole.
Sébastien Paour en direct de Washington pour France Inter. Ces images de manifestants qui brisent des vitres, menacent des policiers dans le bâtiment, symbole de la démocratie américaine. Cela suscite évidemment beaucoup de réactions dans le monde. On entend dans un instant Emmanuel Macron qui a prononcé une déclaration au milieu de la nuit. Mais d'abord, bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour Bruno.
Avec vous, les réactions de pays hostiles, voire ennemis de l'Amérique, qui n'allaient pas rater cette occasion.
Et même s'ils s'en défendent, leurs commentaires traduisent une forme de jubilation. Dans une allocution à la télévision d'État, le président iranien Hassan Rouhani s'en prend à Donald Trump. Un populiste est arrivé au pouvoir et a provoqué un désastre dans son pays pendant 4 ans, dit-il, en ajoutant aussitôt « J'espère que le monde entier et les prochains dirigeants à la Maison-Blanche en retiendront la leçon. » Un message à la fois d'ouverture et d'avertissement à la future administration Biden. Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, lui, ironise en appelant les États-Unis à prendre le chemin de la stabilité et de la justice sociale. La réaction de la Chine est également sarcastique. Elle espère un retour à l'ordre aux États-Unis après ce beau spectacle. Et surtout, le ministère chinois des Affaires étrangères compare l'assaut des partisans de Trump contre le Capitole à l'intrusion des manifestants pro-démocratie au Parlement de Hong Kong en 2019. À Moscou, c'est le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat russe qui remue le couteau dans la plaie. La partie perdante a raison d'accuser les gagnants de falsification, estime sur Facebook Constantin Kozatchev, qui déclare « Il est évident que la démocratie américaine boite des deux pieds ».
Et à l'instant encore, cette réaction du ministère des Affaires étrangères russe, le système électoral archaïque des États-Unis ne remplit pas les critères démocratiques. Du côté des amis de l'Amérique, les mots sont durs également. La chancelière Angela Merkel, triste et en colère, et elle pointe la responsabilité de Donald Trump après les manifestations d'hier. Les doutes sur le résultat de l'élection ont créé l'atmosphère qui a rendu possible les événements. En Israël, Benjamin Netanyahou qualifie les violences au Capitole d'actes scandaleux. Et puis il y a l'allocution d'Emmanuel Macron via Twitter, diffusée au beau milieu de la nuit. Séquence enregistrée à l'Élysée, en arrière-plan, les drapeaux français et européens, mais aussi américains.
La France se tient aux côtés du peuple américain avec force et aux côtés de tous les peuples qui entendent choisir leurs dirigeants, décider de leur destin et de leur vie par ce choix libre et démocratique des élections. Et nous ne céderons rien à la violence de quelques-uns qui veulent remettre en cause cela.
Quelle réaction politique en France? On continue de creuser cette question. On attendait celle de Marine Le Pen, qui n'avait toujours pas reconnu la défaite de Donald Trump. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Quelle réaction donc d'abord au Rassemblement National, Élodie?
Eh bien, au RN, où les Trumpistes sont légion, une délégation d'élus était même allée soutenir Trump à la fin de la campagne. Cette réaction, effectivement, était très attendue. Et après les images de la nuit, la certification, eh bien Marine Le Pen n'a eu d'autre choix que de reconnaître ce matin, pour la première fois, la victoire de Joe Biden et de condamner les violences au Capitole.
Évidemment, comme tous les Français, je suis extrêmement choqué par ces images de violence. Moi, je considère que dans une démocratie, on doit défendre le droit, évidemment, de contester, le droit de manifester, mais pacifiquement. Je veux dire, tout acte de violence qui vise à attenter au processus démocratique est évidemment inadmissible.
Et Marine Le Pen de réagir aussi aux propos d'Emmanuel Macron que nous venons d'entendre, assurant que son parti, depuis 50 ans, accepte les défaites avec sérénité et respect démocratique, selon elle. Il n'y a donc pas de quoi s'inquiéter.
Que dit-on à gauche?
À gauche, on fustige l'extrême droite. C'est bien une tentative de putsch, rappelant ce que sont les Trump, Bolsonaro, Le Pen, écrivait dès hier soir le député insoumis Éric Coquerel. Une extrême droite qui parvient démocratiquement au pouvoir, mais qui refuse de le rendre, alerte aussi l'eurodéputé vert David Cormon.
Évidemment, aujourd'hui, Marine Le Pen est bien obligée de faire un pas de côté par rapport à Trump. Et moi, j'oublie pas que jusqu'à très récemment, l'extrême droite a continué à soutenir Donald Trump. Et jusqu'à hier soir, Monsieur Mariani, député européen, relativise ce qui s'est passé en disant « mais ce sont des Américains perdus ». Non, au sein du Capitole, il y avait notamment un homme avec un t-shirt « camp d'Auschwitz ». Il y a une constance et une cohérence dans tout ça qui menace nos démocraties, donc il faut le relativiser.
Et plutôt que de cibler seulement l'extrême droite, le patron de La République En Marche, Stanislas Guérini, a lui préféré parler de tous les populismes et toutes les violences, attaquant dans un tweet Jean-Luc Mélenchon, qui ne serait pas, selon lui, le meilleur défenseur de la démocratie.
En Allemagne, le président du Bundestag, le Parlement, où des militants anti-masques avaient effectué une intrusion en août dernier, dit vouloir renforcer la sécurité des locaux. La situation aux États-Unis, on en reparle dans un peu plus de 10 minutes avec nos deux invités, l'historien Paul Schor et la journaliste du New Yorker Lauren Collins. J'attends vos questions et vos réflexions sur cette situation aux États-Unis. Appelez-nous 01 45 24 7000 ou utilisez l'appli France Inter, rubrique Réagir. De nouveaux départements vont-ils passer au couvre-feu à 18h? Quelle perspective pour les cafés, restaurants, lieux de culture, stations de ski? Quelle nouvelle précision sur la campagne de vaccination également? À 18h ce soir, le Premier ministre Jean Castex tient une conférence de presse sous pression à double titre. Les controverses sur le début de la campagne de vaccination. Et puis Véronique Julia, l'épidémie toujours aussi inquiétante. Le niveau de nouvelles contaminations ne baisse pas. La menace du variant anglais. L'Europe doit faire plus face à une situation alarmante, dit l'Organisation mondiale de la santé. Alors Véronique, à quelques heures de cette conférence de presse, où en est la situation épidémique en France?
On est loin de la flambée observée en Grande-Bretagne, mais la situation reste préoccupante. C'est le terme employé hier soir par le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy. Préoccupante parce que le nombre de cas refuse obstinément de descendre sous la barre des 10 000. On était encore hier à plus de 25 000 nouveaux cas. Et en termes d'hospitalisation comme de cas graves, on reste sur un plateau élevé avec plus de 2 600 patients en soins intensifs. Alors la situation est très contrastée selon les régions, avec un gradient est-ouest très prononcé, des taux d'incidence qui dépassent 300 pour 100 000 habitants dans le Doubs, le Jura, les Alpes-Maritimes, contre moins de 50 cas pour 100 000 habitants dans les Côtes-d'Armor et le Finistère. Tout cela est d'autant plus préoccupant qu'on a devant nous plusieurs inconnus. D'abord le variant britannique, qu'on dit plus contagieux. Est-ce qu'il circule déjà beaucoup en France? Est-ce qu'il va devenir dominant et pousser les chiffres à la hausse? Il faudrait faire beaucoup plus de séquençage pour le savoir. Et puis, quel va être l'effet des fêtes de fin d'année? Les Français ont-ils été sages? De l'avis général des spécialistes, il faut attendre encore un petit peu pour en juger. C'est d'ailleurs pour le milieu de la semaine prochaine que Jean-François Delfraissy envisage, peut-être si nécessaire, un durcissement des mesures.
200 personnalités du monde de la culture demandent à se faire vacciner, pas pour passer avant les autres, mais pour montrer qu'ils ont confiance dans le vaccin. Alors que, selon un dernier sondage de l'Institut Elab, 45% des personnes interrogées n'ont pas l'intention de se faire vacciner. Comment convaincre les indécis ? La présidente de la région Île-de-France, qui estime la tendance mauvaise dans sa région, appelle Jean Castex à donner de sa personne.
Ce que je crois, c'est que le chef doit toujours donner l'exemple. Donc je considère que les politiques doivent se faire vacciner. Elles doivent se faire vacciner pour montrer l'innocuité du vaccin, pour redonner confiance, et ils doivent se faire vacciner publiquement.
Alors, le problème, c'est que s'ils ne se font pas vacciner, on leur dit « vous avez peur », et s'ils le font, aujourd'hui, on leur dit « vous passez avant tout le monde ».
Vous savez, rien de tel que de voir, d'avoir envie d'être vacciné que de voir les hommes politiques se faire vacciner. Bien sûr, si les hommes politiques se font vacciner, c'est donc que c'est enviable de se faire vacciner.
Valérie Pécresse, ce matin, sur France Info, elle plaide également pour des tests dans les aéroports et les gares pour tester les ressortissants européens à leur arrivée en France. Des tests aussi dans les établissements scolaires. Le ministère de l'Éducation nationale fait le point cet après-midi avec les syndicats enseignants sur la situation sanitaire dans les écoles, collèges et lycées. Ça fait 2 mois que le ministère promet 1 million de tests rapides pour profs et élèves. On est pour l'instant loin du compte. Alexis Morel.
10 000 tests antigéniques ont été réalisés par l'éducation nationale avant les vacances, principalement en lycée. 10 000 seulement, alors que certains conseils régionaux, de leur côté, ont pu tester des milliers de lycéens en quelques jours. Le ministère explique que décembre correspondait à une phase de rodage et promet une montée en puissance ce mois-ci. Mais le dispositif est lourd. Il associe localement rectorat, agence régionale de santé et préfecture. Souvent, l'éducation nationale ne peut pas prendre en charge cette campagne de tests toute seule. Elle dépend de personnels extérieurs, par exemple de l'APHP en Île-de-France, sans compter les blocages techniques, comme l'explique Claudine Nemoza du SNMSU, le premier syndicat de médecins scolaires.
Pour faire ces tests rapides, il faut déjà pouvoir accéder au serveur qui enregistre les résultats des tests. Les professionnels libéraux ont des boîtiers qui leur permettent d'entrer assez rapidement les résultats des tests sur le serveur dédié. Nous n'avons pas, par l'éducation nationale, ce genre de terminal d'enregistrement qui nous permettent de se brancher sur le serveur.
Pas mal de freins à lever donc, d'autant qu'au-delà des collèges et lycées, les syndicats réclament aussi désormais des tests à l'école élémentaire.
À propos des étudiants, on parlait hier des gros bugs dans l'organisation des partiels de deuxième année de médecine à Paris, dans le contexte délicat du moment évidemment. Eh bien c'est la même chose à l'université de Strasbourg. Les partiels à distance de 2 à 4000 étudiants ont été interrompus par une panne de serveur informatique. À Rennes, le procureur de la République annonce plusieurs nouvelles arrestations, près d'une semaine après la rave sauvage de Lieuron. Un jeune homme de 22 ans, considéré comme l'un des organisateurs, est en détention provisoire. Plusieurs comités de soutien appellent à un rassemblement samedi à Rennes pour demander sa libération. Et alors que Jean Castex doit s'exprimer tout à l'heure, cette question, et si Sanofi, le laboratoire français en retard sur son vaccin, acceptait d'ouvrir sa chaîne de production à ses concurrents, a priori plus avancés? Écartée par la direction de Sanofi, l'idée en interne est évoquée par certains et incitée par ailleurs jusqu'au gouvernement, selon vos informations, Maxime Debs.
Hors micro, une voix au gouvernement regrette ce retard et trouverait plutôt bien, voire judicieux, de mettre à profit le savoir-faire sur le sol français en la matière. On a les moyens d'aider, poussent d'ailleurs les syndicats depuis plusieurs semaines, lesquels appellent à mettre de côté les questions d'ego. William Briand de la CFDT.
Nous, effectivement,
effectivement, ça ne nous choquerait pas d'aider sur la production des vaccins Covid. Est-ce qu'on doit tous pousser dans le même sens pour combattre cette pandémie qui frappe la Terre entière?
Bien sûr, il ne s'agirait pas d'intervenir sur la substance du vaccin en elle-même, mais de venir en soutien en qualité de sous-traitant. Le vaccin a parfois besoin d'être dilué avant passage dans la seringue, c'est dans nos cordes. Le conditionnement, l'expédition aussi, estiment les syndicats, sans compter les fameux congélateurs à moins 80 degrés qui permettraient pourquoi pas un stockage des doses. Cela aussi, on les a.
C'est pas un truc nouveau pour nous, le congélateur moins 80. C'est quelque chose qu'on sait faire.
La direction répond, pas si simple en termes de logistique et surtout, l'objectif reste de continuer à développer un vaccin propre. Celui de Sanofi se révèle au dernier test moins efficient sur les personnes de plus de 50 ans. Un vrai problème pour les syndicats, sachant que ce sont précisément ces personnes qu'on va chercher à vacciner en premier.
À l'étranger, face à la progression de l'épidémie, un nouvel état d'urgence est déclaré à Tokyo et dans sa grande banlieue. Cela représente 37 millions d'habitants. D'une épidémie à l'autre, celle-ci touche les volailles. Inflation galopante des foyers de grippe aviaire dans le sud-ouest. La filière foie gras redoute et prépare des abattages massifs. L'effet de souffle de l'affaire Olivier Duhamel provoque une crise à Sciences Po. Le politologue était président de la Fondation nationale des sciences politiques, qui a la main sur le budget et les grandes orientations de la prestigieuse école de la rue Saint-Guillaume. Accusé d'inceste par sa belle-fille dans un livre qui sort aujourd'hui, Olivier Duhamel a démissionné de son poste. Mais Rémi Brancato, autre développement, le président de Sciences Po, le directeur de Sciences Po, était au courant des accusations qui pesaient sur son collègue et plusieurs organisations étudiantes appellent Frédéric Mion à démissionner.
Oui, des appels à la démission qui fleurissent depuis hier soir, depuis la publication de l'article du Monde qui révèle que Frédéric Mion, le directeur de Sciences Po, était au courant des accusations qui visent Olivier Duhamel. C'est Aurélie Filippetti qui l'a alerté il y a plus d'un an. L'ancienne ministre et la direction de Sciences Po nous le confirment ce matin. À l'époque, Frédéric Mion assure avoir cherché à vérifier ces allégations, mais l'avocat Jean Veil, proche d'Olivier Duhamel, lui aurait répondu qu'il s'agissait de rumeurs. Qu'importe, ce matin, plusieurs dizaines d'étudiants ont manifesté sous les fenêtres du directeur pour demander son départ. Pour Thomas Lecor, le président du syndicat étudiant UNEF à Sciences Po, la confiance est rompue.
Frédéric Mion était au courant des faits reprochés à Olivier Duhamel depuis 2019. Et entre cette date et aujourd'hui, non seulement il n'a pas fait mention de ces faits une seule fois, mais à deux reprises, devant la communauté étudiante et devant le conseil d'administration, il a dit qu'il n'était pas au courant. Il a donc menti par deux fois à toute la communauté étudiante. Et on ne peut pas rester à la tête d'une institution aussi importante que Sciences Po en représentant ça, l'idée qu'on peut mentir devant toute la communauté.
Sciences Po a connu l'an passé un mouvement de dénonciation des violences sexuelles et sexistes par ses étudiants et étudiantes. Le directeur avait mis en place une cellule d'écoute. Selon nos informations, pour l'instant, sa démission semble exclue.
En bref, dans l'affaire du chantage à la sextape, on se dirige vers un procès de Karim Benzema. Le joueur de football est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Versailles. Allez, une nouvelle positive et encourageante. Arrêtons-nous sur la magnifique course qu'est en train d'effectuer Damien Seguin, premier marin handisport de l'histoire du Vendée Globe, lui qui est né sans main gauche. Il est actuellement quatrième de la course. Il a été brièvement classé deuxième ces dernières heures. Il a pris plus à l'est que les autres concurrents dans la remontée de l'Atlantique après le Cap Horn.
Juste après le passage du Cap Horn, il fallait composer avec la fatigue et il fallait prendre des décisions. Donc j'ai accepté de perdre du terrain à ce moment-là, justement pour pouvoir investir dans l'Est. Je continue à croire en ma bonne étoile. C'est pas simple. Après, c'est un choix qui est fort. Hein. C'est un choix qui est fait aussi pour contrôler au maximum mes adversaires qui sont derrière. Puis on fera les comptes dans quelques jours. Quoi. Donc voilà, c'est des options quand même de grande envergure. Tu penses un petit peu plus au classement. C'est une phase différente. Et puis ça m'a permis d'être hier deuxième au classement. J'ai quand même le sentiment bien amusé, quoi. Donc ça, c'est top.
14 concurrents sont à la hauteur ou au-delà du Cap Horn. Désormais, le dernier, c'est Romain Attanasio à être à la hauteur du Horn. Et c'est toujours Yannick Bestaven qui est en tête de la flotte.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Avec Via Santé, devenons tous acteurs de notre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va?
Il faisait presque moins 20 degrés ce matin à Pékin, mais c'est la météo en France qui nous intéresse. Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est moins froid, mais c'est toujours hivernal.
Oui, ça reste hivernal en effet, avec 3 à 4 degrés sous les moyennes de saison. Comptez 2 degrés à Aurillac, 3 à Nancy, à Dijon ou à Limoges cet après-midi. 4 degrés à Lille, Paris, Strasbourg, Lyon et Toulouse. On ira jusqu'à 6 à Caen, Vannes, Bordeaux, Marseille et jusqu'à 12 degrés pour Bastia. Alors sur les régions du Nord jusqu'à l'Auvergne et au Lyonnais, on a encore beaucoup de nuages, très épais sur un grand quart nord-est où quelques flocons sont encore possibles. Près de la Manche, c'est un peu plus changeant avec des éclaircies mais toujours des averses. Et puis en allant vers le sud, c'est plus lumineux, un soleil parfois voilé malgré tout, surtout entre les Pyrénées, la Méditerranée et le sud des Alpes. Et puis pour la Corse, des nuages et de la pluie au menu.
Élodie Calac, Météo France, dans un instant. Vos questions sur la situation aux États-Unis. Nos invités, la correspondante à Paris du New Yorker, Lorraine Collins, et l'historien spécialiste des États-Unis, Paul Shore.
Au terme du Mont d'Or, à l'air pur d'Auvergne, nous prenons soin de vos articulations, de vos troubles respiratoires, de votre santé. Chaîne thermale du soleil, prendre soin de vous, c'est notre métier.
Il est 13h30.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvic.
Bonjour Lorraine Collins.
Bonjour.
Correspondante à Paris du New Yorker, auteur de ce livre qui s'appelle Lost in French. Comment avez-vous réagi quand vous avez vu les images des manifestations hier soir au Capitole ?
Franchement, c'était une nuit assez difficile à regarder de Paris, mais pour moi, c'était en tout, mais pas du tout imprévisible, choquante, bien sûr, mais pas inédit.
Pas inédit.
Well, c'est-à-dire que je suis en train, en fait, d'écrire un livre, de rechercher un livre vraiment, mais sur un coup d'État.
Oui.
Qui s'est passé dans ma ville de naissance, dans la ville où je suis née et où j'ai grandi, qui s'appelle Wilmington,
oui.
De Caroline du Nord. Caroline du Nord, mais c'est dans le sud des États-Unis.
Oui.
Et en fait, en 1898, là-bas, il y avait des suprématistes blancs qui ont réussi à perpétrer un coup d'État. Là-bas, ils ont tué des dizaines de gens noirs dans la rue. Ils ont réussi à renverser le gouvernement municipal. Et
vous trouvez que ce qui s'est passé hier fait écho à cela?
Je veux dire que il y a toute une généalogie, il
ouais.
y a des antécédents et toute une généalogie des actes perpétrés, des actes violents d'abord, ouais. il faut dire. Perpétrés par des suprématistes blancs aux États-Unis qui ne sont pas heureux avec les résultats des élections. Mais évidemment, on n'a pas vu quelque chose comme ça récemment ou
dans
souvent.
Dans l'histoire moderne.
Mais c'est juste, je crois que c'est important de comprendre qu'il y a un historique.
Oui. Bonjour Paul Shore.
Bonjour.
Historien spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l'Université Paris Diderot. Vous, comment avez-vous réagi lorsque vous avez vu ces images hier soir et quels enseignements en tirez-vous?
Effectivement, c'est des images tout à fait inhabituelles et spectaculaires. Mais comme le disait votre invité, il y a une continuité et je pense qu'elle se voit par exemple dans le fait de voir ces gens qui ont envahi le Capitole avec le drapeau confédéré, un drapeau qui n'a jamais été à l'intérieur du Capitole. Et qui montre aussi une certaine continuité historique. Après, on voit aussi que, enfin, sur les images, ça donne l'impression qu'ils n'avaient pas vraiment préparé ou organisé et qu'ils n'avaient pas de but particulier, si ce n'est symboliquement d'occuper le Capitole, parce que ce qu'ils voulaient montrer, c'est que ils considèrent que les élus ne sont pas légitimes et que c'est toute la rhétorique démagogique sur laquelle Trump a joué, de dire que en fait, tous les élus de Washington sont corrompus, sauf ceux qui soutiennent Trump. Et donc, c'était ça qu'on voyait. Donc, il y avait à la fois les images et puis il fallait aussi prêter attention aux paroles, enfin, aux slogans, à ce qu'ils criaient, à ce qu'ils disaient, qu'ils ont été beaucoup interviewés par la presse, parce que c'est aussi des gens qui, visiblement, avaient envie de faire passer des messages.
Sur une échelle qui irait de la manifestation au coup d'État, vous placez ce qui s'est passé hier à quel niveau?
Je dirais pas que c'est un coup d'État, c'est plutôt une sorte effectivement d'émeute. Cela dit, quand on regarde effectivement l'histoire des coups d'État, ceux qui ont marché, ceux qui ont réussi, souvent ça commence par l'invasion des lieux de pouvoir et donc ça peut ressembler à ça en apparence. Ensuite, on va voir, enfin, on va voir ce qui va en ressortir. Moi, ce qui m'a frappé dans la suite, c'est que les élus républicains, qui étaient d'une certaine manière les alliés de ces gens qui ont envahi le Capitole, ceux qui votaient pour objecter à la certification des résultats, oui. Certains d'entre eux, après ce qui s'est passé, sont revenus dessus, mais d'autres, le lendemain, enfin pendant la nuit, après les destructions et l'invasion du Capitole, ont continué et ont maintenu leurs objections à certifier les résultats de l'élection. Et donc, ils ont d'une certaine manière affirmé leur solidarité avec ces gens qui avaient saccagé le Congrès.
Paul Schor, je poserai la même question à Lauren Collins. Vous prêtez foi au tweet de la porte-parole, enfin du porte-parole de la Maison Blanche, qui affirme qu'il y aura une transition ordonnée, que c'est la fin du mandat de Donald Trump. Il y a une page qui se tourne avec ce tweet.
Oui, quand même, je pense, parce que. En fait, ce qui se passe aussi, c'est que Donald Trump est quand même de plus en plus isolé. On voit son vice-président Mike Pence, qui n'avait en vérité pas d'autre choix, qui a donc certifié l'élection de Joe Biden. On voit qu'un certain nombre des ministres de Trump ne le suivent plus. Et il faut aussi voir que pour tous ces gens, ils considèrent que Trump est sur le départ. Mmh. Donc en fait, son autorité, c'est quand même beaucoup amoindri. Et un autre signe de ça, c'est qu'il semble que l'intervention de la garde nationale hier pour rétablir l'ordre s'est faite sur l'ordre de Mike Pence et que Donald Trump n'a pas été dans la boucle de cette décision. Il a été court-circuité par les services.
On va au standard dans un instant. Lauren Collins, vous dites ça y est, la page Trump, ouf, est terminée. Est-ce que vous dites ce ouf-là, ou peut-être que vous avez le recul de la journaliste et que vous exprimez pas comme ça. Est-ce qu'on prête foi à cette déclaration? C'est bon, il va laisser se faire une transition ordonnée?
Je suis un peu moins confiante que
Paul Schor.
Mais c'est-à-dire que chaque fois que quelque chose de juste complètement scandaleux se passe, comme ce qui s'est passé hier soir, on dit certainement ça marque la fin,
ouais.
de cette,
on n'ira pas plus loin,
de cette folie. Certainement les adultes vont reprendre la main et le contrôle. Oui, ouais. Mais on voit que ça continue, ouais. Et je me demande, il y aura des conséquences pour les gens qui ont fait ça hier soir? Je sais pas. Moi, ce que j'ai vu hier, était des gens qui ont saccagé l'enceinte parlementaire, et ils ont défilé et ils ont rentré chez eux, aux hôtels, et ouais. ils ont bu un verre tout ensemble. Il y avait combien d'interpellation
52.
Oui.
Ouais, quelques dizaines, sans doute un peu plus, mais
pour
à ce
moi,
stade,
ça ne donne pas confiance.
Allez, Lionel au standard de France Inter. Bonjour Lionel.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Bordeaux, nous vous écoutons.
Oui, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une possibilité, ou est-ce qu'il existe dans le droit américain une possibilité d'intenter un procès ou une action en justice contre Donald Trump pour avoir appelé ses partisans à marcher sur le Capitole, et puis même sans le dire peut-être directement, allez-y, cassez tout, c'était subliminal, en arriver aux conséquences qui sont arrivées hier. Est-ce que ça existe dans leur droit, de façon à ce que le président, même si ce sera après qu'il sera plus président, pourrait être poursuivi en justice?
Paul Schor, quelles conséquences judiciaire à ce qui s'est passé hier, judiciaire ou politique?
Oui, c'est tout à fait possible. Il y a un délit d'incitation à l'émeute. Et d'autre part, le président des États-Unis n'a pas d'immunité absolue, en fait. Il peut être poursuivi, y compris pour des actes dans l'exercice de ses fonctions. Et en plus, si jamais il y avait une action judiciaire, de toute manière, elle interviendrait quand Donald Trump ne serait plus président. Cela dit, ce n'est pas parce que c'est possible que ça va arriver, parce que je pense que une fois que Donald Trump ne sera plus président, l'attention va se détourner de lui, en fait, et qu'il y aura moins de pression, en fait, pour s'en prendre à lui, et il va, en fait, il ne sera plus au centre, en fait, du jeu.
Et vous croyez à l'hypothèse qu'il soit écarté du pouvoir via le 25e amendement avant la transition du 20 janvier?
Non, d'abord, c'est pas tout à fait adapté. Oui. Ensuite, ça prendrait trop de temps. Et je pense que même si Mike Pence et plus de la moitié des ministres du gouvernement de Trump voulaient le faire, ils se diraient que dans 13 jours, Trump n'est plus président, oui. Et donc ça n'en vaut pas la peine.
Beaucoup de remarques sur l'appli Lauren Collins. Comment se fait-il que les forces de l'ordre aient été aussi peu mobilisées? Comment se fait-il que les émeutiers soient entrés aussi facilement? Vous vous êtes posé cette question, vous aussi, en voyant ces images?
Je n'ai aucune idée, franchement. Ouais. J'aimerais bien savoir.
Paul Shore, vous interprétez ça comment, le fait que ces manifestants soient entrés aussi facilement que cela?
Bah écoutez, ce qu'on a vu sur certaines des images, moi j'ai vu une image des émeutiers à l'intérieur qui faisaient des selfies avec un des policiers du Capitole. En fait, ils ont été assez bienveillants. Il y a eu des arrestations, mais apparemment surtout une fois que les émeutiers étaient partis. C'est vrai que la police du Capitole a essayé de les contenir, mais j'ai l'impression, mais bon, je suis pas un spécialiste du maintien de l'ordre, hein, mais j'ai l'impression que par rapport à d'autres manifestations, notamment des manifestations de Black Lives Matter, des manifestations de mouvements pacifistes contre la guerre, le dispositif policier était plus léger et sans doute ils avaient des instructions aussi de ne pas taper trop fort, parce que on sait bien que aux États-Unis la police peut facilement frapper, voire tirer sur les citoyens, ce qui est tout à fait regrettable, hein. Et je dis pas qu'ils auraient dû le faire hier, mais on peut comparer par rapport à d'autres événements qu'il y avait peut-être une forme de complaisance, si ce n'est de complicité, non pas forcément de toute la police, mais de certains d'entre eux. Et je pense qu'il y a aussi une question, on verra sans doute, ça se poser sur des sympathies politiques qui peuvent exister au sein de la police avec ce genre de mouvement.
Oui, je crois que
Lauren Collins.
C'est important. Je voulais juste dire qu'il y avait un rapport qui a été fait par le Brennan Center, c'est une watchdog organization.
Un lanceur d'alerte, un cercle de réflexion.
Oui, oui. Ouais. Et c'est juste à dire que la police américaine, dans tous les niveaux fédéral, municipal, ouais, etc., était infiltré par des suprématistes blancs aussi. I mean, je crois que c'était le FBI qui a dit récemment que ça, c'est la menace le plus grande internale aux, ouais, États-Unis à ce moment-là. C'est l'infiltration de la police par les suprématistes blancs.
Vous avez peur pour la journée du 20 janvier. Vous vous dites que le climat va être très tendu, qu'il y a un risque de à nouveau d'émeutes ou plus?
J'imagine qu'il y aura une présence policière plus forte qu'hier, mais on a tous entendu les mots de Trump hier. On ne quittera jamais. On continuera. Pour moi, c'est tout un mouvement qui est né il y a 4 ans, mais loin avant ça aussi. Et ça va être difficile de s'empêcher, de s'arrêter tout court comme ça.
Si le mandat de Trump s'achève, le Trumpisme est un phénomène qui n'est pas prêt de s'achever, c'est ce que vous nous dites.
Oui.
Au standard, Yves. Bonjour Yves.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Je voulais dire que les émeutes et les fractions dans le Sénat et la Chambre des représentants a un peu occulté ce qui s'était passé quelques heures auparavant en Géorgie, où 2 candidats démocrates avaient été élus au Sénat, donnant l'égalité de voix au Sénat pour les 2 partis, et donc de facto la majorité, puisque Kamala Harris, la présidente du Sénat, aura la voix qui fera
la différence
vers les démocrates. Voilà.
Paul Shore, ça c'est intéressant. Au fond, si on prend un peu de recul et sur cette séquence depuis le 3 novembre et qu'on en dresse le bilan, Biden a gagné avec 7 millions de voix d'avance, 306 grands électeurs contre 232. Il a le Congrès à sa main. C'est une victoire et un début de mandat où il aura des pouvoirs assez larges.
Oui, alors effectivement, c'est quand même un rejet de la présidence Trump. Mais néanmoins, les marges de manœuvre de Biden seront un peu limitées par sa majorité très courte. C'est-à-dire, ouais, qu'en particulier au Sénat, il y a des sénateurs démocrates qui sont plutôt conservateurs, qui vont monnayer chèrement, par exemple, ceux qui sont pas du tout des partisans du Green New Deal ou de la transition énergétique, notamment des élus de régions où il y a du charbon, qui sont démocrates, mais qui, sur ces questions, sont plus alignés avec les républicains. Mais votre auditeur a tout à fait raison, c'est quand même très important. Là, les démocrates ont réussi, finalement, de justesse, mais ils ont réussi à obtenir le contrôle des deux chambres du Congrès et de la Maison-Blanche. Et donc, ça leur permettra de faire ce que Obama n'a pas pu faire quand il a été freiné par la majorité républicaine au Congrès. Donc, effectivement, et ce qu'on a vu en Géorgie aussi, qui est assez intéressant, c'est que les deux candidats démocrates qui ont été élus, en fait, en particulier Ossoff qui a battu Perdue, il était derrière au premier tour, et entre les deux. Il y a eu l'électorat républicain est plutôt un peu resté chez eux, sans doute aussi parce que Trump leur expliquait que de toute façon l'élection était truquée, ce qui était un peu c'était pas très stratégique de sa part. Et les démocrates se sont bien mobilisés. Donc entre les deux tours en Géorgie, il y a quand même eu une mobilisation qui était c'était vraiment un référendum contre Trump.
Et on peut dire par ailleurs que malgré les images d'hier, malgré la grande tension depuis le 3 novembre, au fond, les institutions ont tenu. Paul Shore.
Oui, tout à fait. Et d'une certaine manière, ce qui incarne cela, c'est de voir aussi bien Mitch McConnell, le président de la majorité au Sénat, que Mike Pence, le vice-président de Trump, qui ont été pendant 4 ans des soutiens. Très loyal dans le cas de Mike Pence, sans doute un peu moins, mais plus par calcul pour McConnell, qui ont très clairement, McConnell a très clairement pris ses distances et a dit que l'alliance de ces républicains-là avec Trump, c'était fini.
Lorraine Collins, une dernière question. On sait à quel point les images circulent sur les télévisions dans le monde entier. Quand vous voyez ces images, pour votre pays, vous vous dites quoi? Vous vous dites, waouh, quelle image pour mon pays?
C'est pas belle. Mais je sais pas. Je crois qu'il faut retenir que c'est pas forcément quelque chose de tout nouveau aux États-Unis. Comme je disais, il y a une longue historique, oui. Et il faut comprendre que les fruits de notre histoire sont en train de mûrir, oui. Pour moi. Ça, c'est ce que les photos disent pour moi.
Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Lorraine Collins, correspondante à Paris du New Yorker, et ce livre donc en préparation, il n'y a pas de date de sortie encore.
Non, pas du tout.
Et merci beaucoup à l'historien Paul Shore d'avoir été également avec nous. 13h46.
France Inter, le 13-14.
À suivre, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Écho dans l'histoire de ce qui s'est passé hier aux États-Unis.
Oh bah vous savez, les occupations du Parlement, on connaît ça en France depuis la Révolution française.
Vous allez nous détailler cela. Le feuilleton, une semaine dans la vie de la capitaine de l'équipe de France de rugby, Gaëlle Hermé. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
C'était il y a 5 ans, jour pour jour, l'attentat contre Charlie Hebdo. 11 personnes assassinées, dont 8 membres de la rédaction du journal satirique. Frédéric, vous avez rencontré la fille d'un des dessinateurs tués par les terroristes, le dessinateur Honoré.
Oui, sa fille s'appelle Hélène, elle avait 34 ans au moment de l'attentat. Elle est enseignante et habite le quartier des Batignolles à Paris, tout près de l'appartement de son père, un appartement atelier où il a vécu près d'un demi-siècle. Lorsque je l'ai appelée, que je lui ai demandé quel chanteur ou quelle chanteuse elle souhaitait qu'on écoute aujourd'hui, Hélène Honoré n'a pas hésité une seconde. Elle m'a répondu Charles Trenet.
Trenet, je l'écoutais beaucoup avec mon père et mon père me l'a fait découvrir très jeune. Il m'avait acheté une cassette audio, les meilleures chansons de Trenet. On écoutait, il me gardait le mercredi après-midi comme ça et on les chantait ensemble.
Vous aviez quel âge?
Je dirais j'ai commencé à 5 ans. On n'avait pas le même niveau de lecture, évidemment. Moi, je voyais la fantaisie des chansons et puis mon père aussi la fantaisie, la poésie, mais aussi le côté un peu tragique des chansons de Trenet. Donc tout de suite, ça m'est venu parce que ça fait ressurgir immédiatement des souvenirs heureux de partage avec mon père.
Ces souvenirs-là, ce sont des souvenirs de salon, des souvenirs de voiture?
On mettait la cassette sur sa table à dessin. Il avait un lecteur de cassette sur sa table à dessin et on l'écoutait dans son atelier. Quand il faisait une pause après avoir travaillé, Donc c'était des moments pour moi dans mon souvenir très ensoleillés, à la fois d'échanges sur son travail, il me faisait dessiner, j'y dessinais lui de son côté et moi de mon côté, et on mettait les chansons de traînée, ça faisait surgir la joie. La relation que j'avais avec mon père, c'était autour de la joie de vivre, de l'amour, de la vie, quoi qu'il arrive en fait. Et dans la chanson « Je chante », on ressent cet élan vital, quoi qu'il arrive. Même si à la fin, évidemment, il n'est plus question de vie, mais on continue à chanter.
Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais de ferme en château, je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche la nuit sur l'herbe des bois, les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'aime bien, je chante sur mon chemin.
Et comme nous sommes désormais en 2021, l'attentat c'était il y a 6 ans, 7 janvier 2015. Revenons à cette chanson, Frédéric Pommier, Je chante, qui a au départ été composée pour un film.
Oui, un film musical qui lui aussi s'appelait Je chante. Le film est sorti en 1938. La chanson a été enregistrée en 37 et c'est l'histoire d'un vagabond qui passe ses journées à chanter. Quand on l'écoute vraiment, on s'aperçoit que le texte est assez grave. Il se suicide, le vagabond, à la fin de la chanson, mais la musique légère semble finalement plus puissante que l'histoire. Et chaque fois qu'elle l'entend, cette musique, cette chanson, Hélène Honoré ne peut s'empêcher de sourire.
C'est une chanson qui est particulièrement joyeuse, que mon père aimait beaucoup et qui, pour moi, a un peu la quintessence de traîner parce que c'est faussement naïf. Il y a le tragique de la vie, il y a la joie de vivre, l'énergie, la contemplation du monde. Il y a des personnages, on entend les gendarmes, on imagine vraiment les personnages. Moi, enfant, je les voyais, je les imitais.
Au poste, d'autres moustaches m'ont dit, au poste, ah, mon ami, oui, 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 c'est vous le chanteur, le vagabond, on va vous enfermer, oui, votre compte est bon, non, ficelle.
On peut vraiment se faire une idée un peu comme dans l'esprit du musical, en fait. On s'y voit, on se projette. Donc c'est une chanson qu'on aimait beaucoup chanter parce qu'elle reste longtemps. En plus, on la fredonne, on la garde en tête pendant des jours. En l'entendant, on a envie de sauter, on a envie de se lever, on a envie de chanter faux ou juste, si on a de la chance. On ne peut pas rester de marbre.
Vous chantez ?
Je chante du soir au matin, du matin au soir, et quoi qu'il arrive, je chante. Sous mon masque, je chante.
Je chante soir et matin, je chante sur les chemins. Je hante les fermes et les châteaux, un fantôme qui chante, on trouve ça rigolo. Et je couche la nuit sur l'herbe des bois, les mouches ne me piquent pas. Non, non, je suis heureux, ça va, j'ai plus faim, et je chante sur mon chemin.
Elle a réussi à parler de joie et nous faire sourire en parlant de son père. Je chante de Charles Trenet que nous faisait écouter Hélène Honoré. Je chante une des chansons qui la relie à son père, le dessinateur Honoré, assassiné il y a 5 ans lors de l'attaque terroriste, il y a 6 ans lors de l'attaque terroriste contre le journal Charlie Hebdo. Merci Frédéric Pommier.
À demain.
Une semaine dans la vie de Gaëlle Hermé, c'est notre feuilleton. Gaëlle Hermé, la capitaine de l'équipe de France de rugby. Quand elle n'est pas en bleu, elle porte le maillot de Toulouse. Et à la ville, cette jeune femme est ergothérapeute auprès de personnes âgées. C'est de cette vie à Toulouse, entre terrain et maison de retraite, au temps de l'épidémie qu'elle parle à Fanny Lechevestrier. Une semaine dans leur vie, épisode 4.
On est au cœur de là où moi je m'entraîne quasiment tous les jours, toutes les semaines. On est au Stade Toulousain. J'y suis arrivée quand j'avais 18 ans, donc depuis 2014. C'est quelque chose parce que déjà c'est un club qui a une histoire. Et je suis arrivée au début de la création du Stade Toulousain féminin. Et ouais, c'est quelque chose de représenter les couleurs rouge et noir parce que à Toulouse, c'est la ville de rugby et le Stade Toulousain, c'est le club de rugby. Référence.
Tu veux pas s'asseoir ?
Ouais, carrément. En fait, on allie un double projet, donc la journée on travaille et le soir on s'entraîne. Les journées, c'est le matin on se lève, on part au boulot ou on part à l'école parce qu'on a des étudiantes. Le midi, on a des possibilités de faire des séances de musculation, donc entre-temps on peut revenir au stade faire notre séance, on repart au boulot ou à l'école. Et le soir, on revient, possibilité de faire une séance aussi de muscu pour celles qui n'ont pas eu le temps de le faire entre midi et deux. Et ensuite, on enchaîne avec le terrain à 20h. Il y a des périodes où il y a des doutes, ouais, tout simplement, beaucoup de fatigue. Voilà, quand on peut arriver aussi sur la période hivernale, ben là, ça commence un petit peu à tirer, le corps commence à être fatigué. Généralement, c'est et mentalement où ça commence à être dur, ben oui, parce que les journées sont longues, puis il commence à faire froid, voilà, c'est... Mais je pense que ce qui fait garder le cap aux joueuses, c'est justement les valeurs du rugby et... On adore, on joue rugby parce que c'est notre passion. Et je pense que c'est ça qui fait que beaucoup de joueuses tiennent aussi. Quand il y a des moments un petit peu plus difficiles, généralement, on est là les unes pour les autres. Alors, je suis ergothérapeute. J'ai découvert ce métier-là parce que d'autres joueuses en équipe de France sont aussi ergothérapeutes. C'est un métier qui est encore peu connu. C'est un métier du paramédical et notre but, c'est vraiment d'aider ou de maintenir une certaine autonomie dans les activités de vie quotidienne. Personnes qui ont pu avoir soit une situation de handicap ou une restriction de pouvoir participer à ces activités-là. Et nous, on les aide dans ces processus. Pendant la crise, du coup, mon directeur de l'EHPAD, parce que je travaille dans une maison de retraite, m'avait demandé de venir travailler un peu plus souvent. Et donc, j'ai été plongée à 100% dans cette profession-là. Et en fait, ça m'a vraiment confortée dans le fait de me dire que pour rien au monde, je ne voudrais faire autre chose. On n'a pas connu, alors je le souhaite peut-être pour les futures générations, ce professionnalisme à plein temps. Mais c'est vrai que moi, le double projet a toujours été important pour moi. Ça a été toujours quelque chose que je me suis dit, je veux avoir un diplôme, je veux avoir quelque chose pour, au moment où j'arrête ma carrière, je saurai vers quoi me tourner. Et puis finalement, c'était un équilibre, parce que quand ça n'allait pas dans le rugby, ben, je me retrouvais dans ma profession et vice-versa. C'est vraiment la voie que j'ai choisie et c'est vraiment ce que je veux faire. Alors c'est vrai que oui, forcément, nous, ça a été compliqué puisque notre championnat s'est arrêté du jour au lendemain et on s'est retrouvés confinés. Seuls les sportifs de haut niveau avaient le droit de s'entraîner et alors qu'on a un rythme quand même assez intense d'entraînement. Finalement, on s'entraîne un petit peu comme des professionnels. Hein, même les filles qui sont en club et qui sont amatrices, elles ont un rythme d'entraînement qui est quand même assez conséquent. C'est une crise, je pense, que tout le monde traverse et il faut être capable de se serrer les coudes. Voilà, mais c'est vrai que de pouvoir se retrouver là, c'est un réel plaisir.
Une semaine dans la vie de Gaëlle Hermé, le dernier épisode de notre feuilleton signé Fanny Lechevestrier, demain.
France Inter, le 13-14.
13h55, c'est l'heure du vif de l'histoire, écho dans l'histoire de ces images d'hier, l'occupation du Congrès. Jean Lebrun, l'ancien président Bush, déplore que les États-Unis donnent l'image d'une république bananière.
Oui, mais il ne connaît pas l'histoire de France. Le 6 février 34, les manifestants qui assiègent le palais Bourbon et qui disent que leur démocratie l'emporte sur celle que représentent les parlementaires, et les manifestants du 6 février rejoignent une des traditions de la Révolution française, celle qui, pour faire simple, organise les sans-culottes et les tricoteuses en club de surveillance depuis les tribunes, des députés qu'il regarde d'un œil suspicieux.
La convention sous la Révolution élue en 1792 siège sous surveillance.
Alors la journée du 31 mai 1793 est à cet égard décisive. Des sections viennent apporter des pétitions qui exigent la taxation économique, l'épuration politique des députés qui ne conviennent pas. Sous la menace, renouvelée le 2 juin, 80 000 hommes et 150 canons autour de l'Assemblée, les conventionnels se soumettent, démettent 22 d'entre eux, qui seront l'objet du procès dit des Girondins. Et depuis cette date, en France, beaucoup considèrent que l'insurrection, c'est un droit supérieur à la représentation.
Et l'idée prévaut ensuite, chez nous, à chaque révolution.
1848, République ressuscitée, février, suffrage universel, masculin, à Pâques, une assemblée est élue qui siège, parce qu'elle est très nombreuse, dans un bâtiment de bois qu'on va appeler le chaudron, à juste titre. Le 15 mai, une foule en blouse force les portes afin d'y lire une pétition qui, comme souvent lors des journées révolutionnaires, en appelle non seulement à l'impôt sur le capital, mais à la guerre. Cette fois, c'est pour la défense de la malheureuse Pologne opprimée par le tsar. La multitude venue pour intimider l'assemblée la tient bientôt dans sa main. Et elle finit par la déclarer carrément dissoute. Alors, un peu plus tard, les gardes nationaux et les gardes mobiles reprendront le contrôle du centre de la capitale. Et le mois suivant, la répression des Rouges, qui dressent cette fois des barricades, sera terrible. Ensuite, on ne connaîtra plus vraiment de tentatives dangereuses d'occupation du Parlement, sauf le 6 février 34. Cette fois, ce ne sera plus apparemment le même peuple. Il sera largement composé d'anciens combattants, comme il en figurait beaucoup d'ailleurs hier, parmi les trumpistes du Capitole.
Et voilà pour la France. La tradition américaine diffère beaucoup de la française.
On reste dans les mêmes années. Hein. Aux États-Unis, dans les dernières années du 18e, peu après qu'en France se sont multipliées les journées révolutionnaires, des menaces se sont cependant profilées contre l'orientation libérale jusque-là dominante. Le deuxième président,
Adams réagit en criminalisant tout propos diffamatoire contre le Congrès ou lui-même. L'ensemble de la législation de son mandat, d'ailleurs, provoque une forte colère. Les opposants disent que l'État viole le premier amendement sur les libertés. La campagne électorale est délétère et Adams, battu, digère si mal sa défaite qu'il décide de ne pas participer à la cérémonie de passation de pouvoir. Mais il ne lui vient pas l'idée d'exprimer son amertume autrement. Alors il part en catimini le matin du jour J, il prend seul la diligence de l'aube. Les passations à l'époque se tiennent le 4 mars. Le 20 janvier, jour de la cérémonie dorénavant, un incendie s'était déclenché, nous sommes en 1801, à la Maison Blanche en 1801, qui ne portait pas encore ce nom et venait à peine d'être inauguré. Qu'a fait Adams? Il a pris sa place dans la chaîne humaine de porteurs de sceaux qui s'était alors constitué. Exemplaire Adams.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire, les échos dans l'histoire des images au Capitole hier. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre au carré juste après le flash de 14h. Quel sera le programme Mathieu?
Eh bien on va découvrir pourquoi il est si intéressant d'étudier les champignons en biologie évolutive.
C'est noté, à tout de suite.